VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manilakis à la présentation de cette édition du vendredi 9 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. La France annonce la fermeture de ses bases militaires dans le nord du Mali. 10e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud, mais les habitants n'ont pas l'esprit à la fête. Un tribunal sud-africain a rejeté un recours de dernière minute de Jacob Zuma pour éviter la prison. Plus de 50 morts au Bangladesh dans le gigantesque incendie d'une usine. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. La France commencera à fermer des bases dans le nord du Mali au second semestre de l'année 2021 dans le cadre de la réduction de sa présence militaire au Sahel. Déclaration ce vendredi du président français Emmanuel Macron en marge d'un sommet des pays du G5 Sahel. Bagassi Koura.
La fermeture des emprises françaises de Kidal, Tessalit et Tombouctou sera achevée d'ici le début de l'année 2022. A précisé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse conjointe à Paris avec le nouveau président nigérien Mohamed Bazoum. M. Macron a évoqué le changement de la menace djihadiste qui s'étend désormais sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, notamment cette pression exercée par les groupes terroristes dans les zones se situant à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Maintenant, la présence militaire française au Sahel va s'articuler autour de deux missions. D'abord, la neutralisation et la désorganisation du haut commandement des deux organisations ennemies, Al-Qaïda et le groupe État islamique, ainsi que l'appui à la montée des armées de la région. Dans ce cadre, l'emprise militaire de Niamey, qui accueille les avions de chasse et drones français, sera musclée, d'après M. Macron. Le QG de l'opération Barkhane, appelé à disparaître, restera un élément clé avec le maintien d'une présence aérienne et terrestre significative. La France maintiendra à terme 2500 à 3000 hommes dans la région contre 5100 aujourd'hui, indique Emmanuel Macron.
Le Niger et le gouverneur de la région nigériane du Borno ont trouvé un accord pour rapatrier les réfugiés nigérians qui avaient fui les exactions de Boko Haram. Nous nous sommes fixés comme échéance le mois de novembre-décembre pour que tous les réfugiés du Nigeria qui sont sur le territoire de la région du Diffa retournent chez eux. C'est plus de 130 000 personnes, a déclaré le président du Niger, Mohamed Bazoum, lors d'une conférence de presse à Paris en marge d'un sommet du G5 Sahel. Mahamat Idriss Déby Itno, qui dirige la junte militaire au pouvoir au Tchad, a assuré jeudi que ses relations avec l'Union africaine sont maintenant apaisées. L'organisation panafricaine avait renoncé à suspendre ou même sanctionner le Tchad après que l'armée a dissous le Parlement, abrogé la Constitution et nommé le général Mahamat Idriss Déby Itno, 37 ans, président pour une période de transition de 18 mois renouvelable. L'opposante béninoise Rekia Madougou, mise en examen et écrouée à Cotonou en mars pour terrorisme, va déposer vendredi une demande de remise en liberté, a déclaré Mario Stassi, son avocat français, en déplacement à Cotonou. Ancienne ministre, Madame Madougou est accusée d'avoir voulu faire assassiner des personnalités politiques pour empêcher la tenue du scrutin et de déstabiliser le pays. Le Sénégal, plusieurs institutions et pays européens, et les États-Unis notamment, ont annoncé la signature vendredi à Dakar d'un accord visant à financer l'installation d'une usine de production de vaccins contre le Covid-19 et d'autres maladies endémiques. L'Afrique subit une troisième vague de coronavirus sur fond d'une rupture de vaccins anti-Covid. La construction de l'usine de production de vaccins doit démarrer au plus tard en 2021 et 25 millions de doses de vaccins doivent être produites fin 2022. L'Afrique importe 99% de ses besoins en vaccins selon un communiqué conjoint du gouvernement sénégalais et de la Team Europe. Le Soudan du Sud a célébré ses 10 ans d'existence aujourd'hui, une indépendance arrachée le 9 juillet 2011. Le président Salva Kiir a promis d'éviter de replonger son pays dans la guerre. Yacouba Ouédraogo pour les détails.
Aucune cérémonie officielle n'a été prévue à cause du Covid-19, à l'exception d'une course de 10 km courue dans la matinée. Le président Salva Kiir s'est adressé à ses concitoyens dans un discours télévisé.
Je vous assure que je ne vous ramènerai plus dans la guerre. Travaillons tous ensemble pour nous remettre de la dernière décennie et ramener notre pays sur le chemin du développement dans cette nouvelle décennie.
Le président Kiir salue un nouvel esprit de dialogue entre les signataires de l'accord de paix de 2018 et dit faire de l'économie et de la sécurité ses priorités. Il a réitéré ses accusations envers la communauté internationale après la prolongation par l'ONU de l'embargo sur les armes jusqu'au 31 mai 2022, qui l'empêche, selon lui, de leur fournir les armes nécessaires. La première décennie du pays a été marquée par une guerre civile entre 2013 et 2018, opposant les forces du président Kiir à celles de son rival Riek Machar. Ce conflit a fait plus de 380 000 morts et déplacé 4 millions d'habitants.
Un tribunal sud-africain a rejeté vendredi un recours de dernière minute formulé par l'ancien président Jacob Zuma, âgé de 79 ans, pour éviter d'aller en prison en affirmant ne pas être compétent en la matière. Quelques 10 personnes ont été tuées et plus de 1500 déplacées à la suite d'une tempête qui s'est abattue sur la Gambie mercredi soir, a indiqué jeudi l'agence des catastrophes de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. L'étendue des dégâts dans le pays est encore à déterminer, mais plusieurs régions sont désormais sans eau courante et électricité, a précisé la présidence gambienne dans un communiqué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bangladesh, au moins 52 personnes ont péri dans un gigantesque incendie qui a ravagé une usine près de Dhaka, la capitale. De nombreux ouvriers ont dû sauter par les fenêtres pour échapper au brasier. Il y a plus d'une trentaine de blessés. Claire Morégibourg.
Le feu a débuté hier vers 17h heure locale, selon des témoins à l'usine HM Food and Beverage, qui fabrique des bonbons, des nouilles et des jus de fruits. Le feu s'est propagé rapidement du fait de la présence de produits chimiques hautement inflammables et de plastique dans le bâtiment, selon le chef des pompiers de Dhaka. Au moins 30 personnes ont été blessées, dont certaines qui s'étaient jetées par les fenêtres des étages les plus élevés. Les pompiers ont secouru 25 personnes sur le toit du bâtiment. On ignore encore le nombre total de personnes qui se trouvaient dans le bâtiment de 6 étages situé à Rupgani, une ville industrielle proche de la capitale. Au petit matin, des familles continuaient d'attendre des nouvelles de leurs proches près de l'usine qui était toujours la proie des flammes. En novembre 2012, un incendie a frappé une usine textile dans la banlieue de Dhaka et avait fait 111 morts. Puis en 2013, au moins 1138 ouvriers sont morts dans l'effondrement du Rana Plaza, un atelier de confection.
En Haïti, l'enquête se poursuit à Port-au-Prince sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Le mystère s'épaissit sur l'identité des commanditaires qui ont envoyé le commando armé de 28 assaillants. 17 individus ont été arrêtés, dont 15 Colombiens et 2 Américains, a annoncé jeudi soir la police haïtienne lors d'une conférence de presse. Au moins six mercenaires seraient d'anciens militaires colombiens, a annoncé jeudi soir le ministre colombien de la Défense, Diego Molano, dans une vidéo envoyée aux médias. Le département d'État des États-Unis, sans confirmer l'arrestation de ressortissants américains, a affirmé avoir accepté d'aider la police haïtienne dans son enquête. Zaïla Avant-Garde, une adolescente noire de 14 ans, originaire de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, a remporté hier soir le Scripps National Spelling Bee 2021, un concours annuel d'orthographe organisé aux États-Unis. Elle est devenue la première africaine-américaine championne de compétition depuis sa création il y a presque un siècle. Les détails avec Nani Tetalani.
Zaïla Avant-Garde a dû correctement épeler l'orthographe du mot Muraya, M-U-R-R-A-Y-A, qui désigne un genre d'arbres tropicaux d'Asie et d'Australie. L'adolescente, qui a gagné $50 000, a déclaré s'être préparée pendant 2 ans. Elle attribue sa victoire à ses tuteurs et à un peu de chance. Elle espère que sa victoire historique va inspirer d'autres jeunes noirs aux États-Unis à exceller en orthographe. C'est en quelque sorte une ouverture pour s'intéresser à l'éducation, a déclaré Zeila Avant-Garde, qui est aussi le premier gagnant de l'État de Louisiane. L'adolescente est également une joueuse de basket talentueuse avec 3 records du monde Guinness en dribble. En 1998, Jodie Ann Maxwell de la Jamaïque était devenue la première championne noire de la compétition, mais Zeila Avant-Garde est la première africaine-américaine à l'emporter. Elle affirme avoir pensé à Mac Noella Cox, qui, en 1936, a été le premier finaliste noir au Spelling Bee, mais n'avait pas le droit de séjourner dans le même hôtel que les autres candidats blancs.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nani Tetalani.
Au Bénin, l'agence des transports est secouée par un scandale financier d'une perte de 13 milliards de francs CFA qui, selon le gouvernement, a été causée par des passations suspectes de marché et l'octroi de plusieurs primes et des immatriculations frauduleuses des milliers de véhicules. Les propriétaires des voitures impliquées devront s'acquitter des frais de douane non versés avant le 14 juillet, sous peine de poursuites judiciaires. L'ex-patron de l'agence, Thomas Agbeva, a été limogé et plusieurs personnes sont en garde à vue. En Guinée, l'inflation a atteint 12% en 2020 en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, des taux de fret liés à l'approvisionnement dû à la pandémie. Le déficit des transactions s'est creusé à 13,7% du PIB en raison de l'envoi des importations de services de gestion, de fret et de télécommunications qui a contrebalancé la forte croissance des exportations du secteur minier. Le déficit budgétaire a atteint près de 3% du PIB et la dette publique a augmenté à 43,4% du PIB.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yakuba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Finale NBA pour commencer. Phoenix repousse les assauts des Milwaukee revanchards pour s'imposer une seconde fois chez lui 118-108. Lors du match numéro 2 de la finale, Bagassi Koura.
Oui, après avoir peiné en tout début de rencontre, les Suns ont peu à peu repris l'ascendant avant la pause pour ne plus relâcher leur étreinte malgré les multiples tentatives de retour des Bucks. Milwaukee n'a jamais donné l'impression d'être en mesure d'imposer son basket, affichant une certaine résignation qui rappelait celle du Game 1 malgré les 42 points de Giannis Antetokounmpo. Côté Suns, Chris Paul a inscrit 23 points et délivré 8 passes décisives. La finale NBA, au meilleur des 7 matchs, va maintenant se transporter à Milwaukee pour les 2 matchs suivants, dimanche et mercredi prochain. Faut-il encore le rappeler, la première équipe a gagné 4 matchs, remporte la série et donc la finale NBA 2021.
Merci Bagassi. En football, c'est un week-end de sacre qui s'annonce. L'Angleterre fait face à l'Italie. En finale de l'Euro au stade de Wembley à Londres, les Anglais disputeront leur première finale d'un tournoi majeur depuis leur victoire lors du Mondial 1966, leur première dans un Euro face à l'Italie dimanche. Pour soulever un premier trophée depuis 55 ans, ils devront effacer un autre de leurs fantômes avec cette nationale qu'ils n'ont jamais battue dans un grand tournoi en 4 confrontations. Bien avant, demain la Copa América connaîtra son dénouement avec sa finale de rêve entre le Brésil et l'Argentine. Cette finale au mythique stade Maracana de Rio de Janeiro sera surtout un duel de stars entre Messi et Neymar, anciens coéquipiers au FC Barcelone. Ces deux n'ont jamais remporté de titre majeur avec leur sélection nationale. Pour le sextuple Ballon d'Or argentin, ce sera l'occasion de rompre la malédiction après 4 finales perdues, le Mondial 2014 et le Copa América 2007, 2015 et 2016. Tennis, Matteo Berrettini, 9e mondial, s'est qualifié à Wimbledon pour sa première finale de Grand Chelem en battant le Polonais Hubert Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7, 6-4. Premier Italien en finale de Wimbledon, Berrettini y affrontera dimanche pour le titre le vainqueur de la demi-finale entre le Canadien Denis Shapovalov et le numéro 1 mondial serbe Novak Djokovic. Ce dernier est en quête d'un 6e sacre sur le gazon londonien pour égaler le record de 20 titres majeurs co-détenus par Roger Federer et Rafael Nadal.
C'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a commencé hier sa peine de 15 mois de prison pour outrage à la cour. Un tribunal sud-africain a rejeté aujourd'hui son recours de dernière minute pour éviter la prison en affirmant ne pas être compétent en la matière. C'est donc la fin d'un suspense après plusieurs jours de confrontation hostile entre la police et les partisans de l'ancien président sud-africain. Le récit de notre correspondante Valérie Hirsch au KwaZulu-Natal.
Jacob Zuma a passé sa première nuit en prison mercredi à 23h40, 20 minutes avant l'ultimatum donné à la police pour l'arrêter. Il a quitté de lui-même sa résidence de Nkandla pour se rendre à la prison d'escorte au KwaZulu-Natal. Fin juin, la Cour constitutionnelle l'avait condamné à 15 mois de prison pour avoir refusé de comparaître devant une commission d'enquête sur la corruption pendant sa présidence. La police craignait des affrontements violents avec les supporters de Zuma, mais tout s'est passé sans incident, à la surprise générale. Le commentaire du politologue Ralph Mateka.
L'ancien président avait défié la justice s'il n'avait pas été arrêté. Cela aurait remis en cause le principe que tout le monde est égal devant la loi. C'est arrivé à un point où il n'y a plus de solution en dehors de la détention de M. Zuma. C'est le leader le plus important de l'ANC qui a été emprisonné pour une affaire liée à la corruption, donc c'est un événement majeur. Bien sûr, il va y avoir une réaction. Il faudra voir si l'ANC arrive à isoler M. Zuma de ses supporters au sein de la base du parti.
L'ancien chef d'État a été incarcéré dans le service médical de la prison pour 2 semaines de quarantaine. Un groupe de ses partisans s'est rassemblé devant la prison, dont Karl Niehaus, qui avait mobilisé des anciens combattants pour empêcher l'arrestation de Zuma.
C'est une injustice qui a été commise à l'encontre du président Zuma. Nous allons lancer une campagne avec le slogan « Libérer Jacob Zuma ».
Niehaus a été arrêté par la police alors qu'il donnait cette interview. L'ancien porte-parole de Nelson Mandela, ayant été suspendu hier par l'ANC, il n'avait plus le droit de participer à des réunions publiques. On s'attend à d'autres mouvements de protestation ce week-end au KwaZulu-Natal, où un tribunal saisi par l'ancien chef d'État doit se prononcer ce vendredi sur sa détention. Lundi, la Cour constitutionnelle va aussi entendre Zuma, qui va plaider pour un allègement de sa peine, notamment en raison de son grand âge, 79 ans. En attendant, beaucoup de Sud-Africains se sont réjouis de l'incarcération de Jacob Zuma, célébré comme un moment historique dans l'histoire de la jeune démocratie sud-africaine et un exemple pour tout le continent. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bénin, un audit a révélé une perte de plus de 13 milliards de francs CFA détournés par des cadres de la NAT, l'Agence nationale des transports terrestres, entre 2016 et 2020. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres du mercredi 7 juillet 2021, plusieurs cadres ont été arrêtés, certains sont en fuite. Également, dans le collimateur de la justice, les propriétaires de 2646 véhicules immatriculés mais non dédouanés. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
L'audit commandité par l'État pour la période 2016-2020 à la NAT a révélé des irrégularités estimées à plus de 13 milliards de francs CFA de manque à gagner à l'État béninois. 9 cadres de l'agence sont actuellement gardés à la brigade économique et financière. D'autres cadres ont été relevés de leurs fonctions. Pour le porte-parole du gouvernement, il s'agit de graves irrégularités qui laissent voir des dépenses fantaisistes non prévues par la loi. Wilfried Léandre Rumbedji.
L'adoption irrégulière d'une convention collective accordant des avantages exorbitants au profit des agents. Une prime bimestrielle octroyée à l'ensemble du personnel et qui, à l'analyse, est un complément de salaire déguisé. D'indemnités et primes dites de fonctions administratives et politiques allouées au directeur général et à son adjoint, l'octroi à tous les directeurs d'une prime de gestion calculée à partir du résultat d'exploitation de l'agence, du paiement chaque année d'une gratification correspondant à un mois de salaire, consacrant ainsi une pratique de 13e mois en violation des règles appliquées dans l'administration publique.
Outre ces mesures, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, a également donné des instructions au ministre de la Justice. Celui-ci est donc invité à prendre des dispositions idoines pour que les mises en cause répondent de leur forfait devant les juridictions compétentes. Pour Agapit Maforetan, consultant politique, l'État doit aller jusqu'au bout de cette affaire pour montrer sa bonne foi dans la lutte contre la corruption.
Malgré tout, pourquoi ça a perdu? Parce que les pratiquants l'avaient tué. Donc, c'est la constance de la rigueur, la fermeté et la volonté politique qui sont des leviers pour pouvoir arrêter, tout au moins diminuer le fléau. C'est l'éducation par l'action, l'éducation par l'exemple, l'éducation au patriotisme.
Les Béninois se désolent de ces malversations, surtout venant des personnes proches du pouvoir talon.
J'ai été très étonné, parce que cette somme, elle est énorme, elle peut servir à quelque chose.
Ah, c'est un sentiment de désolation, parce que je ne pourrais pas croire que au temps du président Talon, des individus à qui on a accordé des confiances et se permettent de détourner les fonds. Et ça fait mal.
Vraiment, c'est déplorable. Et les vrais tueurs de ce pays sont nos cadres.
Il ressent également de cet audit un total de 2646 véhicules non dédouanés mais qui sont immatriculés à l'ANAT, ce qui fait un préjudice financier d'environ 7,9 milliards de francs CFA pour l'État béninois. Les propriétaires de ces véhicules sont sommés de payer dans un délai de 7 jours les frais de douane au risque de s'exposer à la rigueur de la loi. De Cotonou, Ginette Leadandi pour VOA Afrique.
La pandémie de COVID-19 a bouleversé de nombreux acquis en faveur des femmes. Plusieurs organisations féminines tentent d'inverser cette tendance afin de ne pas réduire à néant des décennies d'efforts pour lutter contre les mariages précoces des filles. Nathalie Barge s'est entretenue avec des ONG en Afrique et aux États-Unis. Son reportage.
Le code de la famille et la tradition au Mali permettent les mariages de filles parfois âgées de 13 ans. L'ancienne députée malienne de Kati, Nana Sanou Kané, secrétaire générale du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, déplore que son pays ne dispose toujours pas de loi.
Nous savons que nous avons ces formes de violence sur lesquelles nous avons toujours voulu avoir une loi. Et je sais qu'avec la crise de 2012, ça s'est beaucoup accentué, surtout les mariages précoces, les grossesses précoces.
Madame Kané souligne que le Mali a toujours privilégié la sensibilisation pour tenter d'apporter des réponses adaptées.
La question du mariage précoce au Mali, il faut l'aborder sous plusieurs angles. Parce que là où c'est des questions culturelles, peut-être qu'il faut trouver des réponses à ces questions culturelles-là. Et là où, en tout cas, les gens le font par rapport à d'autres choses, il faut toujours essayer de trouver des réponses à ces questions-là. Mais si nous mettons le tout dans un panier, ça peut fausser la réponse.
En Côte d'Ivoire, l'abbé Nieblé, chargé de programme protection, éducation et renforcement des capacités à l'ONEF, note que peu de progrès ont été réalisés.
Globalement, les enquêtes nationales indiquent autour de 36% du taux de mariage des enfants. Avec les différentes crises, on n'a pas trop de visibilité, donc le taux n'a pas véritablement régressé.
Monsieur Nieblé explique pourquoi peu de jugements sont rendus.
Ce sont des procès qui sont très très rares, parce que vous imaginez que c'est une pratique traditionnelle et les dénonciations ne sont pas courantes. Quand bien même elles sont faites, les quelques rares cas, les poursuites ne sont pas systématiques.
Le mariage des mineurs est également pratiqué en Occident. Aux États-Unis, aucune loi fédérale ne réglemente l'âge du mariage et une dizaine d'États ne disposent toujours pas de loi fixant l'âge minimum légal pour se marier. Lara Kingstone, responsable de communication de l'ONG américaine SAIO, affirme que certains États ont même rabaissé l'âge du consentement au mariage.
C'est vraiment abject la façon dont l'âge du consentement au mariage a été déplacé. Je pense que ce rôle est une responsabilité fédérale.
La Pennsylvanie, le Minnesota, le New Jersey, le Delaware et Rhode Island ont mis fin au mariage des enfants sans exception. Selon l'organisation Unchained at Last, près de 300 000 mineurs étaient légalement mariés aux États-Unis entre 2000 et 2018. Le Texas est en tête du classement avec près de 42 000 cas devant la Californie, le Nevada et la Floride. Selon Lara Kingstone, réglementer l'âge du mariage au niveau national ne semble pas à l'ordre du jour.
Cela ne semble actuellement pas être la priorité absolue des législateurs fédéraux, ce qui laisse aux États la responsabilité de légiférer.
La lutte contre le mariage précoce ne peut se passer de synergie entre divers intervenants de divers domaines, estime l'experte. En Afrique, la persistance de certaines coutumes fait que cette lutte est loin d'être terminée, mais l'espoir est permis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Joe Biden a présenté jeudi sa justification du retrait militaire d'Afghanistan alors que les talibans gagnent du terrain. Les États-Unis veulent retirer entièrement leurs troupes d'ici la fin août, mettant fin à deux décennies de guerre. Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point, le récit avec Lionel Lunanira Gahima.
Les forces afghanes ont répondu par des tirs dans la capitale de la province de Baghis lorsque les talibans ont attaqué la ville. Leur assaut le plus osé depuis que les États-Unis ont intensifié le retrait de leurs troupes. Déjà, des milliers de soldats et d'entrepreneurs américains ont quitté l'aérodrome de Bagram la semaine dernière, mettant ainsi fin aux opérations militaires qui ont commencé en 2001. Dans un discours jeudi, le président Joe Biden a justifié ce départ.
After 20 years...
Après 20 ans, 1 000 milliards de dollars dépensés pour former et équiper des centaines de milliers de soldats afghans, 2448 Américains tués, 20 722 blessés et des milliers de personnes rentrant chez elles avec un traumatisme mental invisible. Je ne verrai pas une autre génération d'Américains faire la guerre en Afghanistan sans aucune attente raisonnable d'obtenir un résultat différent.
Les responsables américains ont fait savoir que le retrait sera terminé d'ici le 31 août. Biden l'a ordonné en avril, estimant que les États-Unis ont réussi à amoindrir la menace d'Al-Qaïda, le groupe qui avait attaqué les États-Unis le 11 septembre 2001. Avec l'augmentation des attaques des talibans contre les villes importantes, beaucoup s'inquiètent de la possibilité que le gouvernement afghan s'effondre. Mark Jacobson, de la Maxwell School de l'Université de Syracuse, a servi dans l'armée américaine en Afghanistan.
Je ne pense pas que l'armée afghane soit aussi mauvaise comme certains le disent, mais en même temps, je ne suis pas sûr que cette armée a le pouvoir d'empêcher les talibans de lancer une guerre civile totale, ce qui serait une tragédie absolue pour l'Afghanistan.
Joe Biden a assuré que les États-Unis vont continuer de soutenir l'armée afghane, de fournir une aide humanitaire et d'aider à protéger les droits des femmes. Mais il a insisté sur le fait que les dirigeants afghans doivent s'unir.
Nous ne sommes pas allés en Afghanistan pour construire une nation. Et c'est le droit et la responsabilité du peuple afghan de décider seul de son avenir et de la manière dont il veut diriger son pays.
Environ 600 soldats américains vont rester pour garder l'aéroport de Kaboul et l'ambassade des États-Unis dans la capitale afghane. Les analystes affirment que Washington pourrait prendre d'autres mesures pour empêcher le gouvernement afghan de s'effondrer. Michael O'Hanlon, chercheur en politique étrangère à la Brookings Institution.
Si nous pouvons trouver un moyen de ramener les sous-traitants occidentaux, soit en Afghanistan, dans une partie sûre du pays, soit à proximité, pour que l'armée de l'air afghane reste opérationnelle, si nous maintenons les fonds de soutien à l'armée afghane et envisageons peut-être même une utilisation limitée de la puissance aérienne des États-Unis contre tout grand assaut des talibans contre les villes, il y a une chance que nous puissions aider le gouvernement afghan à conserver une grande partie du pays.
Pendant ce temps, des milliers d'Afghans veulent quitter le pays. Le bureau de passeport de Kaboul est encombré car beaucoup espèrent obtenir de visa de sortie avant le retrait total des États-Unis. Sans parler des efforts en cours pour relocaliser des dizaines de milliers d'interprètes afghans et d'autres qui ont aidé les forces américaines. L'administration Biden a annoncé avoir identifié les sites hors des États-Unis où ces personnes seront hébergées temporairement pendant le traitement de leur visa d'immigrants spéciaux.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.